Chaque vendredi soir, des centaines de jeunes se défoulent sur deux routes. Et le danger, c'est parfois la mort.
Je donnerais tout pour avoir un appart comme ça avec personne qui me fasse chier.
Si tu viens me chercher et que tu m'amènes au circuit, je te laisse un double des clés.
Allez, cours !
Rebecca Sotsowski, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de signer un film qui s'appelle Belle Épine. Donc c'est un film qui traite d'un sujet qui est peut-être, j'ai cru le comprendre comme ça, comment faire le deuil.
Alors c'est l'un des sujets du film, donc ça ne m'étonne pas en fait qu'on y pense, qu'on l'évoque quand on pense au film. Mais j'avais vraiment envie que ce soit comme un sujet souterrain, un peu secret, comme le secret du film. Quand je l'ai fabriqué, quand je l'ai écrit, quand j'en parlais à l'équipe, on parlait plutôt, je crois, de vitesse, de jeunesse, de désir, d'envie, de transgression, de lieu interdit. Donc c'était pour moi le vrai sujet du film, il serait plutôt à chercher de ce côté-là. Et le sujet inconscient du film serait la disparition, l'effacement, ou le deuil, oui, si on veut. Mais pour moi, le deuil, c'était pas un sujet de cinéma, voilà. Comme l'adolescence, c'était pas un sujet de cinéma. Mais que les deux ensemble, dans une histoire très précise, pourquoi pas ?
Donc Prudence, qui est l'héroïne du film, bon, Prudence, peut-être qu'elle n'a de prudent que le nom.
Oui, c'est une petite roublardise de ma part, oui. Parce que justement, elle est très attirée par le danger, donc l'appeler Prudence, puis j'aimais bien le prénom.
Prudence a une sœur, et elles ne vivent pas de la même manière la disparition de leur mère.
Ouais. D'abord, elles n'ont pas le même langage. Il y en a une qui est musicienne et l'autre qui ne l'est pas. Et dans le film, il y a une scène qui, moi, me semblait un peu touchante entre elles, parce que n'arrivons pas vraiment à se dire les choses. Et globalement, dans le film, on se raconte peu les choses. En fait. Est-ce que dans la vie, d'ailleurs, est-ce qu'on dit exactement ce qu'on pense ? Je ne suis pas sûre. Et j'aime bien, moi, au cinéma, retrouver dans les dialogues des gens se parlant et se disant des choses, mais ne se racontant pas leurs émotions ou la vérité de leurs émotions. J'ai l'impression qu'on ne le raconte pas tout le temps. Et du coup, elle communique un peu comme ça par la musique. La fille et sa sœur est pianiste. Mmh. Oui, elles ne vivent pas du tout de la même manière cet événement-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler d'un événement et de voir comment chaque corps était confronté à cet événement-là et y réagissait. Alors après, le film, il est super centré autour d'un seul personnage parce que ce qui m'intéressait, c'était de suivre vraiment cette fille-là. Je trouvais que c'était déjà beaucoup de travail avec elle. Et puis, les autres arrivent comme des manifestations d'autres réactions. Voilà.
Prudence agit de cette manière, ce qu'elle recherche, mais en fait elle ne le sait pas vraiment, mais ce qu'elle veut, c'est essayer de trouver une façon de compenser la disparition de sa mère en se projetant dans un tourbillon.
Oui, ça me conviendrait. Enfin, au moment de l'écriture, on se disait ça. Puis quand on a travaillé avec Léa, comment dire, c'est pas solide quand même, se dire comment réagir à la disparition, ça n'existe pas comme action. En revanche, ce qui existe, c'est vouloir aller sur un circuit, vouloir rencontrer tel mec, vouloir monter sur telle moto, vouloir voir telle fille, parce que cette fille est fascinante, un peu frondeuse, un peu séduisante. Et je crois qu'en fait, on se fixe des objectifs, même très petits, même très momentané, quoi, enfin même très éphémère ou épisodique, et puis on s'en fixe comme ça, tous les jours ou tous les ans, je sais pas, ça dépend de l'âge qu'on a et de sa personnalité, et c'est vraiment le cas de l'héroïne dans le film. Elle se fixe comme ça, des petits objectifs à atteindre, et ça donne comme le trajet d'une volonté.
C'est vrai que ce n'est pas un film qui fait l'apologie de la vitesse, il n'est pas racoleur dans ce sens-là, il ne va pas attirer les foules en présentant le côté un peu démagogique de « allez-y, foncez », quoi. Il y a une prudence, il y a une réserve, quand même une retenue.
Non, mais c'est drôle votre question, parce que je ne crois pas en fait que... Ça me faisait penser, cet été, il y avait une émission de radio sur France Inter qui parlait de la jeunesse. Et y était associé tout ce que moi, je voyais, bah, peut-être parce que je n'ai pas écouté toutes les émissions, mais y était associé tous les clichés qu'on porte sur la jeunesse, et qui seraient l'irresponsabilité, l'inconscience, etc. Il y en a une grande partie qui sont vraies, mais une autre qui est un peu approximative. On peut avoir envie d'aller vite sans avoir envie de mourir. On peut avoir envie d'être indépendant, donc de posséder sa propre machine, sans être une tête brûlée. Et je crois qu'en fait, et c'est drôle parce que quand je présente le film aux motards, ils me disent, je dis en général que les motos sont arrivées dans le film parce que ça a un rapport à la disparition, parce que ça a tout de suite pour moi un rapport à la mort, qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu voilà, morbide dans la pratique de la moto et dans les circuits illégaux. Et tout ce monde-là, c'était un monde qui avait un rapport à la disparition. Mais les motards, ils me disent, mais nous, quand on fait de la moto, on ne pense pas à la mort. On n'y pense pas du tout. Donc pour répondre à ça, oui, j'avais ni envie de montrer des idiots épris de vitesse juste pour la vitesse et ni envie de montrer des prudents qui s'arrêteraient à tous les feux rouges. Pour moi, c'était, le sujet était ailleurs. C'était vraiment, à un moment, la possibilité, parce qu'on a une moto, de partir à la mer.
On a quand même l'impression que Prudence, elle y va pour se donner des émotions, mais pas forcément parce qu'elle aime ça. De même, quand elle découvre l'amour ou elle fait l'amour, j'ai pas l'impression qu'elle aime son partenaire.
Ouais, moi non plus. C'est drôle parce qu'on a fait 3 prises. Il y en avait une où elle était très, très, très éprise. Et alors je lui disais, mais c'est beaucoup trop là, mais ça va pas, vous vous aimez beaucoup trop. Et la deuxième, c'était un glaçon. Et puis la troisième, c'était ça. Et comme c'est un plan séquence, on n'a pas du tout. Je ne suis pas intervenue en fait dans le plan séquence. Et ce qui me plaisait, c'était que. Et quand, en tous les cas, quand Léa. Il faudrait demander à l'actrice hein, comment elle l'a joué, mais quand on s'en parlait, je lui disais, c'est pas une histoire d'amour, c'est pas non plus la première fois que tu fais l'amour, mais c'est comme un moyen pour parvenir à tes fins. Alors, elle a envie de se réveiller le matin auprès de la mère de ce jeune garçon, et c'est pour ça finalement qu'elle va jusqu'au bout, donc c'est un petit côté un peu. Elle fait pas de sa sexualité un trésor, voilà. Mais je crois qu'elle a aussi, elle éprouve à un moment une émotion forte. Moi j'ai choisi la troisième scène parce qu'il y avait cette troisième prise parce qu'elle avait en même temps un peu une émotion quand même. Je crois qu'elle jouit quand même à un moment. Et donc je me disais, elle est allée chercher ça. Mais comme sur une moto, elle va chercher un peu de vitesse. Et au lit, elle aimerait bien avoir un tout petit moment d'excitation. Mais en même temps, c'est pas comme un moment de lyrisme. Voilà, c'est pas un moment d'abandon.
Quand on compare à son amie qui, elle, finalement, cherche dans l'amour le fait d'avoir un statut, celui de devenir femme, il y a un décalage ?
Mais quelle amie ? Anaïs de Moustier, dans le film ? Oui, je crois qu'il y a un gros décalage. Mais c'est bien, ça, c'est vraiment... Je crois que c'est vraiment l'âge auquel se dessine le plus ce qui va nous séparer. Enfin, ce qui va nous séparer dans notre personnalité. On achète toute une série de valeurs... des valeurs morales, mais aussi des valeurs familiales, ou enfin une certaine idée de son existence. Et puis c'est là qu'en fait on prend des chemins irréconciliables.
Alors vous parliez tout à l'heure des 3 possibilités que vous aviez par rapport à une séquence, le choix que vous aviez à faire. Est-ce que le fait d'avoir été scénariste avant et de passer à la réalisation, ça change quelque chose, ça vous amène un plus, et notamment dans ce problème des choix?
Alors je sais pas parce que j'ai jamais mis en scène un film sans être passée par le scénario, mais je dirais, enfin, je crois que j'ai une façon de réfléchir très lexicale. C'est tout le temps associé à des mots. Alors pourtant là dans le film, la dimension artistique de l'image était très importante. Genre, j'ai travaillé avec un directeur artistique, l'image qu'on a travaillée avec Georges Le Chaptois, elle était vraiment souhaitée par nous, elle était travaillée comme ça, de façon très précise. Mais au moment où j'installe la scène, et où à toutes les étapes, j'ai envie de dire, de l'écriture et de la fabrication du film, les mots sont mon premier outil. Ma boîte à outils, c'est vraiment ça. Et sur le plateau, et au moment de filmer la scène. Même très souvent, je disais, on faisait un plan séquence, je me rappelais la phrase du scénario, non pas par fétichisme du scénario, parce qu'en plus, bon, on s'en foutait, mais je revenais à la phrase en me disant, ça va me donner finalement le découpage. J'ai eu une façon de mettre en scène, lexicale. Et les images sont nées, alors que certains metteurs en scène, je crois, voient tout de suite des images ou des situations très fortes. Moi, je passais par les mots. Mais ce qui me donnait aussi pas mal de force sur le plateau, parce que quand on a un petit budget et que parfois un décor tombe, bon voilà, on devait tourner dans tel endroit le lendemain, puis on peut plus. Donc on est face à... Enfin, il faut résoudre toute une série de problèmes. Et ces problèmes, ils sont difficiles à résoudre si on n'a pas des déclinaisons rapides, mentales. Donc, et moi, j'arrivais, parce que j'avais identifié lexicalement ce que je voulais, finalement, on pouvait le trouver ailleurs. On pouvait le trouver ailleurs parce que cette chose-là qu'on cherchait, on peut la trouver dans un couvent, mais aussi dans une école primaire, et que tout ça, ça ressemble finalement à l'émotion qu'on cherchait, en fait.
la part musicale dans le film est importante. On la sent arriver plutôt après le début. Enfin, je veux dire, au début, elle n'est pas prégnante, cette musique. On ne la remarque pas. Et même après, quand elle démarre, on se rend compte seulement au bout d'un moment qu'elle existe. Elle est fondue, on va dire, au film.
Ah bon, c'est drôle, mais j'ai l'impression que le générique est très intrusif, justement, sur la musique. Et qu'on voit tout de suite l'intervention de la bande musicale. Mais peut-être, en tous les cas, je le prends comme un compliment, parce que je me dis que ça doit faire partie de la langue du film, qu'à aucun moment on sent que c'est plaqué ou artificiel ou chiant ou plombant. Ça faisait partie pour moi des outils du film, mais vraiment au même titre que l'image. Donc ça m'aurait paru idiot de ne pas profiter de tout un récit du point de vue de la musique. On a vraiment construit en tous les cas la bande originale avec Rob le musicien comme un scénario, ouais. comme la moitié du scénario, disons.
Donc cette héroïne, elle est dans un milieu au départ très structuré et d'un seul coup, elle cherche sa voie, elle est livrée à elle-même, elle refuse aussi cet univers social et culturel qui l'a protégée jusqu'alors.
Ouais, je pense que c'est exactement ça. C'était une possibilité, comme le film, il commence tout de suite dans la crise. Moi, j'aime bien quand les films commencent tout de suite dans le moment où c'est critique. Voilà, dans le moment où on est toute seule chez soi, on a hyper envie d'aller sur ce circuit, on a la possibilité, on est plongé in medias res dans le truc et on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Et pour ça, c'est un tout petit peu ingrat au cinéma parce qu'on ne peut pas vraiment raconter quelle était la vie d'avant. Et on n'a pas beaucoup d'outils au cinéma pour le faire. On peut faire des flashbacks, on peut dire voilà. On peut avoir une voix off. Bon, tout ça, c'était des choses qui m'accablaient un peu. Et en fait, on a une autre possibilité, c'est à un moment de la faire aller dans sa famille, ou une autre famille, ou une famille éloignée, et d'essayer de comprendre dans cette projection-là, dans cette juxtaposition-là, ce que pouvait être sa vie d'avant. Et effectivement, sa vie d'avant, c'était une famille pas dysfonctionnelle, plutôt aimante, plutôt bienveillante. J'avais vraiment envie, donc contrairement à Piana, j'avais vraiment envie d'installer une famille qui fonctionnait avant. Parce que sinon, j'y croyais pas qu'on la laisse toute seule. Qu'une jeune fille quoi, comme ça soit, enfin que tout le monde soit démissionnaire autour d'elle, je trouvais ça un peu artificiel. Et en rencontrant une partie de sa famille, on se dit ah d'accord, on voit d'où elle vient. Et d'où elle vient effectivement, c'est de là. Mais c'est des gens qui, une partie de sa famille, qui elle croit à la religion et croit à certains rites qui peuvent parfois faciliter les événements qui nous arrivent. Et dans la religion juive, par exemple, donc ça, entre autres, mais il existe aussi ça dans la religion catholique, évidemment dans l'islam, enfin toutes les grandes religions sont là aussi pour donner quelques rites à des moments où on est tellement démunis. Et ce moment-là, il se trouve que normalement, elle devrait respecter quelque chose de super simple, elle devrait respecter une semaine de deuil, puis 10 jours de je sais pas quoi, puis ensuite, si c'est un garçon, se laisser pousser la barbe, enfin voilà. Il y a des rites. Et ces choses-là, elle ne les respecte pas, elle ne les observe pas. Elle n'est pas observante, mais elle est observatrice d'autre chose. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'à un moment, il y a cette discussion avec sa cousine qui, elle, ne comprend pas ça. Donc du coup, voilà, c'était une possibilité à un moment donné de dire, voilà comment d'autres personnes, et c'est ce que vous me demandiez sur la sœur aussi tout à l'heure, pour moi, quand on fait un film sur une seule personne, il faut que tous les autres parlent d'elle d'une certaine manière. Donc c'est un peu injuste pour les autres personnages, mais en même temps, il faut vraiment, ça reste très, très cohérent pour ce qu'on veut raconter. Si on veut raconter quelque chose de modeste, il faut le traiter vraiment jusqu'au bout. Et là, chaque personnage, en fait, propose, déploie, voilà, c'est une variation autour d'une réaction comme ça à la disparition de quelqu'un.
On a l'impression aussi qu'elle a du mal à porter sa propre solitude et qu'elle se retrouve dans des milieux qui ont leurs propres codes, leurs propres règles, leur fonctionnement interne. Et malgré tout, elle se met un peu à l'écart de ces fonctionnements. Elle les quitte, elle se sépare de son amoureux, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment un. Enfin, lui, il l'aime, mais on sent que c'est pas vraiment ça qu'elle venait chercher. Elle cherchait peut-être d'autres expériences dans des groupes structurés, mais qui finalement n'étaient pas adaptés à peut-être cet héritage culturel, non ?
Moi, je vois pas de... Pour moi, elle va pas chercher le frisson chez des gens qui sont d'une autre catégorie sociale. Peut-être que le film est traversé par ça, parce qu'à un moment, chaque personnage a un arrière-monde et que ce monde-là est différent. Il se trouve que le garçon dont elle tombe amoureuse, c'est un mec qui travaille à la marée à Rungis, donc c'est pas tout à fait le même métier qu'on imagine ses parents qui, dans l'appartement duquel il y a pas mal de livres. En même temps, c'est des appartements très... pratiquement des logements sociaux un peu chic, mais il n'y a pas un tel écart entre les horizons sociaux des personnages qui justifieraient un discours, enfin qui supporteraient un discours là-dessus. C'est vraiment une construction qui n'est pas intellectualisée dans le film, qui demande évidemment, rien n'est laissé à l'arbitraire, mais qui n'est pas intellectualisée dans son parcours à elle, mais qui est vraiment comment Prudence se donne des horizons, vit comme ça une série de mini-épiphanies, et jusqu'à l'épiphanie finale, disons, qui serait la fin du film, et c'est très simple. Et ensuite, le film est terminé de ça. Mais c'est voilà, ce serait ces 10 jours terribles à elle. Je crois qu'elle, c'est une observatrice, mais elle n'a pas une curiosité. Elle n'a pas de colère, elle n'a pas de rébellion contre son milieu. Elle n'a pas de. Voilà, c'est pas une crise d'adolescence sur ce terrain-là, je crois.
Peut-être la recherche d'une autre vérité, ou tout simplement d'une façon de vivre en fonction de ce problème qui vient de se poser.
Je ne sais pas ce que ce serait de chercher la vérité, en fait. C'est plutôt nous qui cherchons la vérité, mais je crois qu'elle cherche à éprouver. Elle traverse en fait l'épreuve, et à la fin du film est la fin de l'épreuve. Mais l'épreuve, c'est aussi donc éprouver des émotions, des sensations, des visions, des odeurs, enfin voilà, quelque chose de très très matériel en fait, de très physique.
Il n'y a pas de quête initiatique ?
Non, je crois que c'est une épreuve physique en fait. C'est comme une épreuve sportive, je sais pas. Je le vois en fait comme ça. Alors, je sais pas, j'ai pas réfléchi comme ça, j'ai jamais réfléchi comme ça, mais finalement, je dirais que c'est pas une quête spirituelle ni mystique du tout. Ça reste une épreuve presque physique, comme on dit, l'épreuve de sport au bac. Ouais.
Épreuve ou autopunition ?
Plus épreuve, parce qu'il n'y a pas de masochisme. Je crois qu'il n'y a pas de masochisme dans son parcours du tout, qu'elle n'a pas de... qu'il n'y a ni misérabilisme, ni masochisme, ni victimisation. Je crois qu'au contraire, c'est... à la limite, s'il y a une quête, ce serait celle de la dignité, ou qui en passerait peut-être un peu par la dureté, ou l'aphasie, ou le silence, mais... Il y a une attention permanente, en fait, c'est une attention permanente au désir. Une attention permanente à ce qui fait plaisir, à ce dont on a envie à très court terme, et de s'y céder, quoi. De se céder à soi-même.
Flamber ?
Ouais, flamber. Flamber, briller, brûler.
Si tu viens me chercher, et que tu m'amènes au circuit, je te laisse un double des clés.
Allez, cours !
Le fait que vous fassiez allusion à la culture juive dans ce film, est-ce que pour vous, ça représente une réalité quotidienne ? Est-ce que vous vivez cette religion ? Et est-ce que ça vous donne des codes pour aborder la vie ? Et peut-être des règles qui font que par rapport à l'interdit, vous avez des limites que vous ne souhaitez pas dépasser ?
Alors, bon, hélas, non. J'aimerais bien avoir des limites et un carcan et une orthopraxie, une façon de vivre. J'aimerais bien avoir quelques règles de conduite. Bon, non, personnellement, pas du tout. J'aime la fiction, j'aime les récits, donc j'aime la Bible, j'aime l'Ancien, le Nouveau Testament, j'aime le Coran, voilà. Ça m'intéresse. Après... ce qui me plaisait, c'était que... Et je crois pas du tout, d'ailleurs, que les gens pratiquants... Que les religieux pratiquants soient des individus qui se donnent des réponses. Au contraire, je trouve que c'est une façon de se poser beaucoup de questions. Enfin voilà, j'ai pas du tout une vision anti-religieuse sur ce point-là. Mais ça n'est juste pas mon cas. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer qu'il y avait certains personnages qui se confrontaient différemment à certains événements en fonction de leur origine, de leur éducation, etc. Ce qui me semble être très anecdotique et très banal. Et il se trouve qu'ils sont juifs parce que c'est quelque chose que j'avais sous la main. Parce qu'en fait, documentairement, c'était plus simple pour moi de les caractériser comme étant juifs que de les caractériser comme étant protestants. Parce que j'ai plus de rapport au judaïsme qu'au protestantisme. Et plus de documents là-dessus. Et effectivement, il y a une question que vous me posiez tout à l'heure qui concernait la responsabilité, ou en tout cas le pont que vous établissiez avec la responsabilité. L'idée que le film ne soit pas tête brûlée, qu'il ne se termine pas par une apologie, disons, de la vitesse, de l'inconscience, de la fronde, même si moi, personnellement, sont des thèmes qui m'excitent, qui me plaisent. J'aurais envie de... C'est une idée de moi qui me plaît. Mais le film ne le revendique pas. Et je crois qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était, et ça c'était très 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 tôt dans le projet du film, c'est que les adolescents, ou en tous les cas les gens jeunes pour moi, ne sont pas des inconscients, ne sont pas des irresponsables, mais bien au contraire des gens extrêmement responsables. J'ai l'impression que le moment de ma vie où j'ai été le plus responsable a été, je sais pas, l'âge qu'avait l'héroïne. Entre 15 ans et 25 ans, j'ai été, entre 15 ans et même 19 ans, disons, j'ai été un million de fois plus responsable qu'à l'âge adulte. Et je crois que c'est un âge où on est vraiment confronté à cette chose-là, à la culpabilité et son corollaire, la responsabilité. Et je crois que c'est vraiment encore plus vrai quand on perd ses parentaux, parce qu'on est, on est projeté dans certaines nécessités, disons, et dans une certaine lucidité, une clairvoyance, une lucidité, quelque chose qui nous fait considérer la génération d'au-dessus comme une génération et non plus comme une fonction, et nous-mêmes, non plus comme des enfants, mais comme des gens qui sont amenés à gagner de l'argent, vivre, être abandonnés, etc., etc.
C'est un film qui se situe entre rêve et réalisme.
Ouais, bah j'aime bien. Il y avait une époque dans le cinéma français où on parlait de réalisme poétique. Alors, pour moi, l'association lexicale me plaît. Ça n'a rien à voir avec ce que recouvre le réalisme poétique en France. Le film ne fait absolument pas référence. Et d'ailleurs, je connais trop peu cette zone-là du cinéma français. Mais j'aime le titre, ouais. Réalisme poétique. On devrait en reparler. Des films, j'aime bien les films qui sont très, très crus et frais. Et c'est l'hiver. Et en même temps, c'est fantastique. Et le cœur est chaud. Et voilà, j'aime ça.